Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur la planète mode avec nos expertes. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tout le monde. Je suis loin sous la neige, mais je suis avec vous de tout cœur.
Loin sous la neige, on a l'impression qu'elle est au fin fond de l'Himalaya, non?
Laponie.
Exactement, vous êtes tout simplement à moins de 100 km, non, si, une petite centaine de kilomètres de Paris et bloquée par quelques flocons de neige. Il n'en faut pas beaucoup pour perturber les trains en France. Oui. Mais vous êtes bien là, rédactrice en chef du magazine Brune, Karima Peroni, journaliste au magazine Gazelle. Bonjour Karima.
Bonjour à tous.
Vous êtes bien avec nous. Medina Koné également avec nous, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Journaliste pour le magazine FDF, Femme, Diva, Fabulous. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors c'est un magazine haut de gamme qui est généraliste et qui présente tout ce qui est leadership, mode, tendance, qui est distribué donc dans des lieux cosy, des salons de thé, etc. en papier et qui est diffusable aussi sur internet.
Magazine multiculturel. On parle des tendances de la mode et surtout d'un débat récurrent sur les réseaux sociaux provoqué par de drôles de trouvailles. Il y a ce garçon noir qui porte un sweatshirt avec l'inscription « Le singe le plus cool de la jungle ». Il y a aussi, parce que c'est tous les ans maintenant qu'on a ces débats-là et ces scandales-là, il y a cette bizarre étoile jaune sur un t-shirt à rayures ou encore les fameux bracelets d'esclaves, très rapidement rebaptisés manchettes. Alors, la mode, qui a toujours été transgressive, est-elle devenue raciste ou avide de buzz? On se pose la question et surtout on se demande où doit s'arrêter la liberté de création. Appelez-nous, on a envie d'avoir votre point de vue. Les voisins et les voisines sur cette mode qui déclenche des polémiques en chaîne sur les réseaux sociaux. 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, reportage à New York sur ces mannequins du quatrième âge, cheveux argent, rides profondes, les plus de 70 ans au look excentrique sont désormais bankable sur le marché de la mode. On en discute. Allez, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages et il y a Tané à Yaoundé qui revient sur cette histoire de t-shirt qui l'a particulièrement choqué, nous dit-elle. Ça a déclenché des manifestations en Afrique du Sud, on va en reparler. Momo qui est à Moumou, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est à Dakar, ça doit être un surnom. Ces publicitaires, nous dit-il, ont l'air déconnectés de la vie. Je ne sais pas si ces publicitaires sont déconnectés de la vie. En tout cas, ils ont le sens du buzz. Ozana qui est dans le sud du Tchad, à Beboto, la mode est franchement un signe de domination, surtout pour les Africains. Afi, à Kinshasa, elle est journaliste, en même temps couturière, modéliste, et elle dit dans le monde artistique, la liberté d'expression des créations doit être permise, mais dans une certaine limite, surtout pour les écrits, pour les dessins. Ninel, à Yaoundé, au Cameroun, pourquoi la mode est si discriminatoire? Pas de ronde, pas d'handicapés. Qui achète les tenues avec lesquelles les mannequins défilent? Ça aussi, c'est une vraie question. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, en direct. Ne yaptın da ben aynını buldum. Ne ettim senin gibi senin oldum. Kimin nazarı gözü bizi vurdu. Ayrılırken sana ne oldu? Sensin senin yansıman mı? Ne tür bir cahilsin utanman mı? Şunun arkasında net bir duralım. Bu sinir harbinin sebebi sensin. Her gelene kaptırmam, kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek, paşa paşa dönecek ardından. Her gelene yakamı kaptırmam, kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek, paşa paşa dönecek ardından. Sana ne oldu? Sensin senin yansıman mı? Ne tür bir cahilsin utanman mı? Şunun arkasında net bir duralım. Bu sinir harbinin sebebi sensin. Her gelene yakın. Karima Peroni, Medina Koné, Marie-Jeanne Serbin-Toba. On va peut-être rappeler quelques faits pour éclairer nos auditeurs. Il y a eu tout récemment l'affaire H&M avec donc ce petit garçon de 5 ans qui portait ce t-shirt. Je suis le singe le plus cool de la jungle. Hein. Je reprends la traduction en français. Mais il y a eu plein d'autres affaires. Alors cette affaire-là a déclenché des manifestations à Johannesburg en janvier dernier. La mère du petit garçon en question qui habite en Suède, ce petit garçon a 5 ans, hein, je précise. Alors évidemment que lui, la polémique lui est passée au-dessus de la tête et c'est peut-être tant mieux. La mère, Terry Mango, très énervée par la polémique parce qu'évidemment elle s'est vue insultée, a résumé les attaques dont elle est la cible. Je suis une traître, une honte pour les Noirs et les Afro-Américains. J'ai vendu mon fils pour gagner de l'argent. Évidemment, elle le prend très mal. Il y a eu auparavant l'affaire Zara avec cette étoile jaune de shérif sur des marinières à rayures qui rappelait évidemment bizarrement la tenue des Juifs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu l'affaire Dove, une pub de savon avec cette femme noire qui enlève son t-shirt et en dessous
tout
elle est
blanche.
Voilà, bizarrement elle devient blanche. Il y a eu ces bracelets d'esclaves type esclave de Mango rebaptisés à la hâte bracelet manchette. On a eu le pull chômeur de la marque Le Léon dans un autre registre quand même aussi de stigmatisation. Vous, comment vous vivez vous les experts de la mode, comment vous vivez ces polémiques Karima Peroni?
Eh bien écoutez, en fait, moi je pense qu'il y a des choses qui sont... Enfin bon, tout ce que vous venez de citer sont bien sûr innommables et puis scandaleuses. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui évoluent dans le bon sens. Je pense aussi, par exemple, à toutes ces collections qui ont été lancées pour le monde arabe. Enfin, moi je vais parler vraiment en tant que gazelle pour la communauté maghrébine et musulmane. Et effectivement, il y a aussi des collections qui... Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé que des grandes marques de luxe auraient fait des collections spécialement pour les femmes voilées. De la même chose chez Zara, il y a eu toute une collection aussi qui a fait grande polémique autour de la mode qu'on dit pudique. Donc en fait, il y a un petit peu deux poids, deux mesures. Et je pense surtout que cette schizophrénie, parce que c'est vraiment une schizophrénie qu'on retrouve dans le monde de la mode, est en fait tout à fait révélatrice de notre société. Dans notre société, on a des grandes évolutions, on a des ministres qui sont de toutes les origines et c'est tant mieux. Et en même temps, on a encore des actes de barbarie parce qu'on vient des cités ou parce qu'on est de couleur ou parce qu'on est stigmatisé, parce qu'on est musulman. Je pense, la mode, vous savez, c'est vraiment le reflet de la société, c'est le reflet d'une époque et on vit dans cette époque où il y a deux poids, deux mesures et il y a à la fois des choses qui sont complètement archaïques et en même temps d'énormes évolutions et des possibilités d'espoir infinies.
Medina Koné.
Oh bah c'est parfait parce que je vais compléter ce que dit Karima Peroni. À mon sens, on est dans un bouleversement même sociétal et dans les comportements. Il faut savoir que les directeurs, les directrices ont des envies de respect de l'un et de l'autre.
Ils sont dans les groupes de mode, vous voulez dire ?
Dans les groupes de mode et même dans les entreprises. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est de l'ordre du fait que maintenant les frontières sont éclatées, le commerce est un petit peu partout, on peut se nourrir des uns et des autres.
Il y a surtout de nouveaux marchés hein, sur le continent africain, voilà. Qui est un nouveau marché du prêt-à-porter, du luxe. Les pays du Maghreb, tout ça aussi, ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 10 ans.
Il y a une émergence de la classe moyenne, exactement. Donc il y a des potentiels sur le continent, mais il y a aussi les communautés qui vivent à l'extérieur, donc ce sont les enfants d'immigrés, etc. Il y a une espèce de bascule qui est en train de se faire, qui fait qu'on ne peut plus nier les identités autres, qui étaient autrefois effacées.
Pour revenir sur cette pub complètement hallucinante.
Bah, j'y viens justement.
De ce petit garçon et de ce très drôle de slogan quand même sur un t-shirt.
Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que même si les dirigeants ont envie qu'il y ait une mise en avant des cultures. En dessous, est-ce que les gens sont compétents pour le faire? Est-ce qu'ils sont formés auparavant?
Je suis le singe le plus cool de la jungle, c'est pas une identité. Hein.
Là, c'est pas une identité, c'est une question
c'est une erreur marketing.
C'est une erreur marketing.
C'est pas une provocation, non?
Moi, je pense qu'il y a eu une grande volonté de faire du buzz. Je suis assez mal à l'aise. Et comme Dove, hein, Dove c'est platement excusé, Dove a toujours été assez précurseur sur les questions de la femme plurielle, de la femme multiforme. C'est vraiment eux qui ont commencé à sortir ces pubs-là. Et après, ils nous ont fait quelque chose de complètement invraisemblable.
On a les excuses qui sont déjà complètement téléphonées, programmées, mais à la base, tout est déjà écrit. Le scénario est déjà écrit ou pas, selon
non,
vous?
Non, je ne pense pas.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, comment vous sentez ça? C'est une communication et un buzz cynique, choqué, provoqué pour avoir de la com gratuite sur les réseaux sociaux?
Alors, je ne pense pas. Je pense que, comme disait Karima, la mode est le reflet de la société. C'est-à-dire que la mode n'est pas raciste, mais vous avez des agents dans la mode qui sont racistes. Et quand ces agents de la mode, si vous voulez, se mettent en avant pour une raison ou une autre, ben forcément, ça retombe sur le métier. Il faut voir que ce racisme dans la mode n'est pas né avec H&M, puisque dans le reportage que nous faisons dans ce numéro de Brune, nous parlons des mannequins qui ont été les premières victimes, finalement, les mannequins noirs qui ont été les premières victimes du racisme qui existe dans la mode, en étant stigmatisés, en étant refusés sur des castings, et pendant très longtemps. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas parce qu'il y a un ou deux mannequins que l'on voit régulièrement dans les défilés de mode que le problème est résolu. Il est plus facile, finalement, par exemple en France, d'avoir une loi contre les anorexiques contre les discriminations dans la mode. Donc il y a un véritable problème de société qui se passe.
Quand vous parlez des anorexiques, vous parlez des mannequins qui sont trop maigres et qui mettent leur santé en danger.
Voilà, aujourd'hui, donc, il y a certaines marques comme LVMH, comme d'autres, qui se mettent ensemble pour se dire on ne prendra pas des mannequins qui font moins de 34 ou certaines mannequins devront avoir un certificat médical datant de moins de 6 mois qui les autorise à travailler, pas des mannequins de moins de 16 ans. Parce qu'il y a eu des abus dans le milieu. Mais la discrimination envers les mannequins à cause de leur couleur de peau n'a jamais été prise en question ou très rarement. Donc ça, c'est un autre problème.
Mais Karima disait, pour l'affaire H&M et toutes les autres affaires, c'est de la maladresse, en fait.
Non, ce n'est pas de la maladresse, parce qu'il n'est pas possible. Si vous voulez, ce que j'explique dans le magazine, quand vous avez des sociétés comme ça, pour qu'une image sorte, il faut qu'elle soit validée par 20 personnes.
Ah, alors vous, non, justement, vous je vais intervenir.
Donc, ça veut dire que 20 personnes ont trouvé que l'image était correcte, elle était fun et qu'on pouvait la sortir. Donc ça veut dire qu'il y a bien un problème.
Médina Koné, attendez, Médina Koné n'est pas d'accord là-dessus.
Je vais juste intervenir sur un point.
Vu la taille de H&M, effectivement, on a du mal à se dire qu'il y aurait juste deux ou trois personnes qui valideraient l'inscription sur le t-shirt du petit garçon et que ça partirait à la production.
C'est presque ça. Parce qu'en fait, en vérité, là je suis en MBA, par exemple, dans une formation sur le marketing digital. Je suis entourée de personnes qui apprennent aussi les codes d'une société ils ne connaissent que leur petit monde à eux. Et pour certains, c'est une découverte. Moi, je suis par exemple la seule femme noire de la formation. On m'accueille, mais il y a des choses qui les étonnent, par exemple dans mon comportement, dans des choses que je vais relever et qu'ils découvrent à mon contact. Donc, c'est une formation qui est ouverte, certes, mais les personnes qui vont être décisionnaires dans les années à venir et qui vont rentrer dans des entreprises n'ont pas toujours une culture qui permette de comprendre les choses. Ça peut paraître étonnant.
Non, mais attendez, il y a quand même, c'est pas une question de culture, de comprendre le racisme. Quand on compare un petit garçon noir de 5 ans à un singe,
justement, je vais y revenir.
C'est compréhensible pour tout le monde.
Je ne défends pas H&M, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, vous avez des gamins qui vont se retrouver, et je dis bien des gamins, avant vous aviez des personnes et vous aviez des censeurs. Des censeurs dans les bureaux de mode, qui disaient attention, là c'est discriminant pour la ménagère, là c'est discriminant pour telle personne, là c'est trop religieux. Ces personnes-là ont disparu, on les a virées, et on a mis des plus jeunes qui arrivent, et qui vont vite, très vite. Maintenant, ce n'est plus la mode printemps, été, automne, hiver, donc 4 saisons, c'est une mode mensuelle où on fait à la chaîne. Je ne dis pas que c'est bien, moi je suis très en colère quand je vois ça. Mais le problème aussi, c'est que derrière, on met des personnes qui vont très vite, qui ne regardent plus ces détails-là.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
La mode est-elle raciste ou avide de buzz? Vous nous appelez au 33 84 22 71 71 et Yannick nous appelle du Kassai en République démocratique du Congo. Bonjour Yannick, vous avez une question à poser à nos expertes mode.
Bonjour RFI, je voulais intervenir à propos de notre sujet du jour,
ouais.
Concernant la mode portant des inscriptions racistes. Une fois qu'une personne a publié un mode qui porte de tels propos, quelles sont les représailles vis-à-vis de cette personne? Et s'il y en a, y a-t-il déjà une personne arrêtée et sanctionnée pour ce genre de cas? La deuxième question est celle-ci. Non.
On vous a bien compris. Merci beaucoup Yannick de poser cette question. Marie-Jeanne, vous voulez
Emmanuel, ouais. Alors oui, je voudrais répondre à cette question, ouais. Parce qu'on s'était posé en faisant l'article. Alors malheureusement en France, pour l'inscription faite sur le sweatshirt H&M, le risque pour la marque était très faible. Je m'explique. Le racisme est un délit en France et on doit, pour que ce soit un délit, il faut prouver que l'intention raciste était là. Ça veut dire qu'une association qui porterait plainte aujourd'hui contre H&M doit convaincre le juge d'instruction au pénal qu'il y avait une intention de nuire et une intention de discriminer et de racialiser.
Ouais.
Si le juge décide que cette intention existe, la marque peut être condamnée jusqu'à 3 ans de prison, selon les jurisprudences, et à 15 000 euros d'amende. Mais, étant donné que la marque s'est excusée pour une faute de goût, c'est surtout cette faute de goût qui va être ouais. retenue.
Et à chaque fois, excuse, faute de goût, et puis le produit est retiré immédiatement.
Voilà, c'est ça. Alors, si, par exemple, il y avait eu effectivement un procès, en fait, ça aurait été l'auteur, si vous voulez, de cette phrase qui aurait été condamné, et non pas la marque qui se serait défaussée en disant « Ah ben oui, mais c'est un technicien ou c'est oui. La responsable du marketing ». Si bien qu'aujourd'hui, par exemple, H&M a pris à embaucher un responsable de la diversité pour éviter ce genre de problème, mais... À l'heure d'aujourd'hui, H&M ne risque rien au niveau, si vous voulez, de la législation française.
Karima Perroni.
Alors peut-être qu'au niveau de la législation, effectivement, il n'y a rien eu, mais par contre, il y a eu un procès moral. Le buzz a été tellement néfaste pour H&M qu'il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, des émeutes en Afrique du Sud. Et puis,
dans certaines boutiques en France, il y a des groupes qui sont allés pour casser...
Et ça, cette image négative que ça a rendue...
Voilà.
Ouais, je pense que ça vaut aussi beaucoup de procès parce qu'effectivement il y a énormément de pertes du coup suite à cette affaire.
Oui, moi ce que je souhaite compléter, c'est qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on arrête de parler uniquement des marques, mais qu'on fasse la recherche des intervenants. J'apprécie vraiment la question de l'auditeur parce qu'en réalité, à parler uniquement de la marque, on ne parle plus des métiers. On ne parle plus des métiers, c'est le marketing. Ça se décide donc au siège de la marque et quand on est dans l'anonymat, on n'a plus de réponse et c'est dilué finalement. Tandis que dans certains métiers, comme par exemple l'industrie automobile, on a le nom du directeur, quand il y a eu le cas Volkswagen, on a eu le nom du directeur qui a été porté à l'écran.
Tout de suite, on a montré, et c'est un message fort. Tout est anonyme et on a l'impression que derrière, il n'y a personne, il y a juste une marque. Donc comment trouver, comment désigner des responsables? Très bonne remarque. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Nénine qui nous appelle d'Antananarivo à Madagascar. Bonjour Nénine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. Pour moi, j'ai fait un commentaire sur la page en disant qu'il n'y a pas de place pour les gens comme moi dans le monde de la mode, parce que moi, personnellement, je suis petite, je suis un peu ronde, et l'heure de ma peau, elle est ni noire, ni jaune.
Enfin, ouais. Attendez, la ligne téléphonique est assez mauvaise, Nénine. Vous êtes mannequin ou vous souhaitez être mannequin et travailler dans la mode à Madagascar?
J'ai jamais voulu être mannequin, mais c'est juste que j'aime bien.
Oui. Donc vous avez dit en fait, je suis ronde, je suis petite, avec une couleur de peau. Je reprends vos termes au standard parce qu'on vous entend mal, Nénine. Je suis entre le jaune chinois et le marron des Arabes. C'est bien ce que vous avez dit ou pas?
Elle est magnifique.
C'est pas moi qui parle. Hein.
C'est exactement ça. C'est notre couleur ici à Madagascar.
Et elle est magnifique, c'est ce qu'on disait. Hein. les femmes malgaches ont quand même la réputation d'être extrêmement belles. Alors pourquoi vous vous décrivez de cette manière-là, finalement, Nénine?
Mais parce que quand on regarde les magazines, on dirait que les femmes comme nous n'existent pas. Il n'y a que des blondes super grandes et super minces. Et on dirait que les gens comme nous, ça n'existe pas.
Moi, je souhaite intervenir parce qu'en fait, j'ai démarré il y a 20 ans chez Miss Eben Et les mannequins qu'on voyait, alors c'est vrai qu'il y avait Naomi, c'était le tout début. Il y avait Naomi, donc c'était les cheveux lisses, etc. Un certain type de mannequin. Alec Wack était une exception parce qu'elle était très foncée. Là, au fil des années, il y a.
C'est une très
même...
belle carrière, ceci dit. Exactement. Mais effectivement exceptionnel.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Milliards de voisins
et la planète sépare.
Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71 pour donner son point de vue quant à la question qu'on a posée au début de l'émission. La mode est-elle raciste ou simplement avide de buzz? On accueille Daouda qui nous appelle de région parisienne. C'est bien cela. Bonjour Daouda.
Bonjour.
On vous écoute Daouda. Vous êtes à Paris, hein?
Oui, je suis à Paris.
Oui, vous avez la parole. Vous êtes en direct.
Moi, je trouve pas qu'ils sont racistes. Et pour moi, c'est une question de buzz. Et il faut aussi qu'on arrête tout le temps de penser que un, deux, c'est des racismes, c'est des racismes.
C'est-à-dire donc un petit garçon de 5 ans noir qui arbore un t-shirt où il y a écrit « Je suis le singe le plus cool de la jungle » ou encore « Les savons Dove avec une mannequin noire qui quand elle enlève son t-shirt, elle a la peau blanche en dessous, sous-entendu le savon l'a vraiment très très bien » ou encore des bracelets qui sont appelés « bracelets d'esclaves ». Pour vous, c'est quoi alors? C'est juste de la provocation d'artiste?
Pour moi, ça veut rien dire parce que
là, ça veut rien dire.
Ça veut rien dire. Pour moi, le t-shirt, ça va pas lui faire un singe.
Mmh. Oui, ça va pas le transformer. C'est... D'accord.
Voilà.
Ouais. Donc en fait, c'est juste de la mode et comme c'est frivole, il y a pas besoin de s'en occuper, sous-entendu finalement.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut pas victimiser en fait. Je pense qu'il veut, surtout aller dans le contresens, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, on va arrêter d'être parano, faut arrêter de se victimiser, faut aller de l'avant, faut être positif.
Oui.
Je comprends aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent comme lui et on l'a vu dans les commentaires suite à l'affaire HM.
Ce que vous dites plutôt, Daouda, c'est que finalement, c'est que de la fringue, c'est que du savon, c'est ça.
Voilà,
c'est pas la même chose qu'une discrimination à l'embauche pour avoir du travail.
Voilà, c'est moi je suis là, ça fait à peu près 12 ans, mais certes il y a.
Quand
y a
vous dites je suis là, mais... ça veut dire vous n'êtes pas français, c'est ce que vous voulez dire?
Je suis sénégalais.
D'accord.
Je suis en France.
Vous vivez, vous travaillez en France?
En France, oui.
Ouais.
Certes, il y a des racismes, mais il faut pas en généraliser quand même. Pas une marque. La marque, c'est... Il y a deux ou trois personnes qui vont travailler sur...
Ça veut dire que vous, en tant que Sénégalais, si vous avez besoin de vous acheter une chemise, vous continuez d'aller chez H&M?
Tout à fait.
D'accord. H&M sera ravi de la prendre.
Est-ce que vous mettriez ce t-shirt
Est-ce que vous l'achèteriez pour
votre petit garçon?
Voilà, est-ce que vous l'achèteriez pour votre petit garçon?
Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas.
Ah bon?
Et est-ce que vous pensez qu'il serait heureux qu'on le traite de singe?
Pour moi, c'est pas la personne qui met les t-shirts qui est un singe, c'est
juste... Si c'est écrit, ça veut bien dire quelque chose.
Ouais, pour moi, ça veut rien dire.
Moi, j'aimerais intervenir sur ça, excusez-moi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelques années, dans les années 80, il y avait bien des t-shirts Waikiki. Il y avait Waikiki, c'est un petit singe en fait, hein, qui était c'était une icône même. Il y avait tout un merchandising autour.
Le singe est un animal populaire.
Et je retrouve aussi des d'anciens t-shirts où il y avait des animaux, etc., qui sont à la mode, qui sont utilisés par tout le monde. Là, faut se rappeler que cette polémique, elle est partie d'une internaute qui a vu l'association du petit garçon noir et du t-shirt. Ouais. On est dans cette génération là.
À côté du petit garçon noir, il y avait un petit garçon blanc qui avait aussi un t-shirt où il disait qu'il était l'explorateur, je ne me rappelle plus de la phrase, mais expert en survie, voilà. C'est-à-dire que d'un côté, quand on analyse sémantiquement l'image, il y a d'un côté, il y a le petit noir, effectivement, qui reste basique, sauvage, c'est le petit singe, et de l'autre côté, vous avez le blanc, c'est Tarzan, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est le gars qui s'en sort. Donc, il faut arrêter de trouver, il ne s'agit pas de faire de la parano. Vous savez, les lois sont là pour ça, les convictions sont là pour
ça. En l'occurrence, il n'y a pas de condamnation en justice. Hein,
là, mon propos, c'est vraiment pas...
Il n'y a pas de condamnation en justice parce que la marque s'est excusée.
Non, mon propos, c'est de dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, un enfant portera un t-shirt avec un singe. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait ou pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est fini ça. On est dans une réappropriation de notre identité.
Mais c'est fini. On dit ça à chaque fois. Il y a tout le temps une nouvelle polémique.
Mais ce qui se passe, c'est que dans la lecture, j'ai compris, hein, Marie-Jeanne, hein, cette publicité-là, je l'ai vue sous plusieurs formes. Elle était isolée et elle était parfois associée à d'autres. Et il y a aussi des enfants noirs qui sont avec des t-shirts. Je suis un intellectuel. Ça, vous voyez, j'essaye d'apporter aussi un panorama sur ça. Pour moi, c'est insultant de le voir. Ainsi, ça m'a énervée, j'ai mis un message de colère. Mais le racisme tel que l'indique monsieur, c'est Daouda, c'est ça?
Oui, c'est Daouda qui est au téléphone.
C'est qu'aujourd'hui, pour lui, les messages sont il y a des messages directs, parce que le mot racisme n'est pas perçu de la même façon par tous.
Karima Peroni, vous souhaitez revenir sur le problème des mannequins, parce que ça, c'est un vrai problème de fond. Notamment, il y a quelques mois, il y a une mannequin très connue, Léomi Anderson, qui s'est vue remercier lors d'un défilé sous prétexte que le créateur ne voulait pas d'une fille noire. Et elle s'est lâchée sur Twitter. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Là, pour le coup, on est vraiment dans un problème de discrimination. Alors, bien sûr, être mannequin impose des règles physiques. Néanmoins, ces filles-là sont des filles tout à fait sublimes. Donc, est-ce qu'il y a encore ce problème-là, vous, par exemple, pour le magazine Gazelle? Est-ce que c'est encore un sujet?
Alors, pour le magazine Gazelle, l'état est le suivant. On a clairement une pénurie de mannequins qui représentent la beauté arabe. Je dis qu'ils représentent parce qu'en fait, une beauté arabe, c'est une beauté typée. Donc ça veut dire qu'une espagnole ou une italienne peuvent se faire passer, et qui a des cheveux bouclés, on peut penser, imaginer qu'elle représente le fantasme de la femme arabe. Donc on a cette réalité, sachant que chez Gazelle Magazine, on est très vigilant à ce que ce soit des femmes qui soient représentées et qui représentent notre lecteur. Il faut que les femmes se projettent dans notre magazine. Alors, effectivement, il y a une sous-représentation de la femme arabe dans les médias en général. Mais ce n'est pas dû au fait, et vraiment, ce n'est pas dû au fait qu'il y ait un racisme. Le racisme n'est pas tant auprès des agences de mannequins. Il y a aussi un problème aussi dans la communauté maghrébine. Dans la communauté maghrébine, être une mannequin n'est pas valorisé, n'est pas valorisant. Et il y a un problème entre cette pudeur islamo-maghrébin ou arabe et ce que peut véhiculer, en fait, ce que peut faire véhiculer... qui est une mannequin,
et parfois une forme d'autocensure aussi où on se dit bah ça va être difficile pour moi donc non j'ai peut-être pas tenté les choses.
Alors nous clairement on a travaillé avec toutes les agences de mannequins dans notre magazine et des agences nous disaient on a des mannequins qui sont maghrébines mais on a décidé de pas les appeler Aïcha ou Fatima, on leur a changé des prénoms en Maria et en Sabrina parce que c'est plus vendeur auprès des marques. Une marque ne va pas ça clairement on nous l'a dit et ça fait depuis 11 ans qu'on nous le dit et qu'on nous le rabâche, c'est discriminant, c'est sûr, mais en fait la marque ne voudra pas une Aïcha, mais préférera une Maria d'origine d'origine espagnole plutôt
alors
qu'une Aïcha d'origine
tunisienne.
Alors que
par exemple dans le cinéma maintenant, on a l'émergence vraiment de filles issues de la diversité, comme on dit, qui n'ont pas changé leur nom.
Qui
d'ailleurs.
Sont encore stigmatisées. Alors, hein.
Oui, bon, mais enfin,
ça évolue et on est très content, mais c'est encore stigmatisé. Et je pense que la mode suivra d'ici 20 ans. Je pense qu'on aura de plus en plus de mannequins.
Pour
la mannequin arabe avec le fantasme que véhicule la Marie-Jeanne,
Marie-Jeanne Servin-Thomas, oui, pour vous. Alors vous recrutez pour vos couvertures qui sont toujours extrêmement soignées, extrêmement belles, et puis les pages mode aussi dans le magazine Brune, mais où est-ce que vous recrutez les mannequins
En fait, nous, on fait du locavorisme, c'est-à-dire qu'on recrute les mannequins sur place. Par exemple, la dernière cover...
Sur place, c'est-à-dire sur le continent africain.
Voilà, tout à fait. La dernière cover a été shootée au Cameroun par Alain Gann, et le mannequin s'appelle Marie-Laure Mariama. Elle a la peau vraiment chocolatée, elle est magnifique, elle a les cheveux longs, crépus, elle est splendide. Et c'est vrai que par exemple quand on va au Sénégal, c'est un bonheur parce que toutes les filles peuvent être des mannequins potentiels.
Ça, c'est sûr, il suffit de se servir dans la rue, vous avez une couverture.
Oui, oui, tout à fait. Au niveau de la diaspora aussi parisienne, vous avez énormément de mannequins qui ne demandent qu'à travailler. Mais tout à l'heure, en fait, Médina, je crois, disait quelque chose par rapport à l'émergence du continent africain avec des nouvelles marques qui s'installent. En fait, il ne faut pas se leurrer. Il y a des nouveaux chiffres qui apparaissent, hein, parce que les chiffres de la Banque mondiale vantant, si vous voulez, cette classe moyenne qui est en train de monter, il faut les mettre entre parenthèses, parce que ce n'est pas parce qu'il y aura une classe moyenne qu'il y aura une consommation véritablement moyenne. Et les marques, je vous assure, aujourd'hui ne sont pas du tout intéressées par l'Afrique, en comparaison avec la Chine, par exemple, ou le Japon, ou l'Asie du Sud-Est. laissent parce que d'abord ils ne connaissent pas, ils sont très frileux et en général quand ils y vont vraiment à petits pas. Ça veut dire que même quand vous allez par exemple à Abidjan, j'y étais il n'y a pas très longtemps, il y a une marque, la marque Mango, qui effectivement fait de la publicité avec des très grandes affiches, mais tous les mannequins sont blancs.
Ah bon ?
Tous les mannequins sont blancs.
À Abidjan ?
À Abidjan, ah oui, tout à fait.
Alors, il va falloir prier.
Cette même publicité, ces mêmes publicités sont parues au Bénin, où j'étais. Donc, vous avez une jeune fille qui a une robe un petit peu avec du pagne, qui est un modèle de chez Mango, et la jeune femme est blonde aux yeux bleus.
Ça semble incroyable, parce que le célèbre cube qui sert à cuisiner, les mêmes publicités pour ce cube qui appartient à un groupe international, quand on fait la pub à Dakar ou à Abidjan, on a changé le physique des gens, forcément, pour que les consommateurs se retrouvent. Donc,
oui,
pourquoi c'est
oui,
pas la même chose
savez,
en mode ?
En fait, il faut voir, c'est ce qu'on dit dans le magazine, malheureusement, heureusement, quand une marque de mode s'implante, elle s'implante par rapport à une image. Elle s'implante en général pour une femme blonde, mince, aux yeux bleus. Et si vous êtes brune, grosse et puis aux yeux noirs, d'accord, vous allez acheter. Mais vous n'êtes pas la cible prioritaire. Et ça, c'est la réalité. Il y a un site qui s'appelle Business of Fashion qui a fait une étude récemment sur les défilés de mode. Il y a 79% de mannequins durant la Fashion Week de New York, par exemple, qui sont blanches.
Ouais. La mode est vraiment à part par rapport à l'industrie agroalimentaire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut continuer de véhiculer un fantasme. Medina Koné, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que déjà, je rejoins Marie-Jeanne sur un point. Par exemple, H&M a seulement 9 implantations sur les quelques milliers d'implantations. 9 implantations sur le continent. Que 9 sur le continent. On inclut le Maghreb dedans parce que on pense souvent mode afro, etc. Alors que voilà,
ça c'est un problème de marché.
C'est un problème de marché. Et de l'autre côté, on voit aussi que les créateurs du continent se font voler quelque part, puisqu'on copie aussi les modèles du continent. Donc il y a aussi un jeu un peu étrange qui fait que on sait que dès qu'on utilise la mode dite ethnique, ça va permettre de déclencher des ventes d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a le public. Moi, je suis très contente d'une chose. Les clients commencent à prendre le pouvoir. On commence à dire, je ne suis pas d'accord. Quand vous me dites qu'il y a une publicité
à la faveur
Mango,
des réseaux sociaux.
Voilà. Quand vous me dites qu'il y a une publicité Mango, ben, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous manifester pour dire, nous voulons des représentantes qui correspondent à notre réalité.
Effectivement, c'est cette part d'ethnie qu'on retrouve dans la mode. En fait, moi, il y a aussi un danger, c'est que dans les magazines, il y a de plus en plus de couvertures où on met en avant une femme noire. En revanche, là où il y a le danger, c'est de dire attention, c'est pas non plus l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'on aura mis une femme noire tous les trimestres qu'on se dit ça y est, on est une identité plurielle. Là aussi est le danger. Il faut aussi que la femme noire ou enfin la femme ethnique en général soit une femme lambda et qu'on aime pour sa beauté.
Et qu'elle ne soit pas utilisée pour sa couleur de peau.
Exactement.
Ou pour remplir
en fait,
un quota.
C'est le quota, c'est la discrimination positive.
Tout simplement parce qu'elle est belle et que donc elle fait bien vendre les vêtements. Voilà.
Aux États-Unis, il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Il y a beaucoup de marques où il y a une femme noire qui est représentée, mais pas pour des marques ethniques. Je me souviens d'Avon, par exemple, une marque de maquillage qui avait mis en avant une femme noire dans leur publicité sans que ça soit pour des produits ethniques, ce qui n'est pas du tout le cas en France.
Ouais, ce qui est très rare. Merci. Vous restez avec nous, mesdames, parce qu'on a un autre sujet dans quelques instants. Reportage sur les vieilles dames mannequins à New York. Ça aussi, c'est une tendance qui est très intéressante et qui mérite d'être décryptée par nos expertes de la mode. Ça sera juste après Femi Kuti. Everyone they talk for communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of him progress. I say look out, he don't show himself. I say look at the thing, he don't show himself. I say look out, he don't show himself. I say look at the thing, he don't show himself. Opposite people, everywhere you dare.
sleep, everyone they think. Him go drink, everyone they dance. Him go push, everyone they talk. Him go shout, everyone they hear. Him go sleep, everyone they think. Him go drink. I say, look out, he don't show himself. I say, look at the thing, he don't show himself. I say, look out, he don't show himself. Opposite people, I say, look at the thing, he don't show himself.
Reportage à New York, dans les rues de New York, comme sur Instagram, il existe maintenant un profil très en vogue, puisqu'on parle de mode, la vieille dame fashionista, style pointu, flamboyant, parfois excentrique ou rock'n'roll. En tout cas, elles ont toujours un style très personnel, rien à voir avec le look mamie. Notre reporter Cerise Maréchaux a rencontré l'une d'entre elles, Debra Rapoport, 73 ans, dans son appartement à New York.
Bonjour.
Hello.
Entrez.
I suppose you are Debra.
Yes.
Oh, I'm sorry.
That's okay.
Oh, c'est pas grave, je m'en fiche.
Vous êtes en train de vous déshabiller. Je n'avais pas vu que vous étiez sans nu. Vous n'êtes pas pudique?
Non.
Non, je m'en fiche.
16, 18, I
à 16, 18 ans, oui, j'étais pudique, mais maintenant, pas du tout. J'ai même posé nu il y a 2 ans.
I can see the bottom of it. I can't find the top of it.
Ça se met dans quel sens, ça?
Okay.
Oh. Ah, voilà.
Et en fait, vous enfilez un bustier à sequins doré.
With paillettes.
Avec des paillettes.
And then I said, well, what am I going to wear with it? I'm not going to put on a normal.
Et pour aller avec, je me disais certainement pas un pantalon noir, c'est trop évident.
These were on the top.
Donc j'ai attrapé celui-ci là, en haut de la pile, avec un motif tartan rouge et noir. Avec ça, je mets aussi un collier de perles très mignon. Bon, c'est pas mon style, mais justement, c'est pour l'effet de contraste. Moi, j'aime les tenues des assorties, discordantes, qui surprennent, quoi, qui réveillent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de... J'ai dû le ranger ailleurs. Ah, le voilà. Je vais ajouter un boa rose.
Alors là, nous avons un boa en plume d'autruche rose.
Just because it makes it more fun.
C'est bien plus amusant. Pas mal, hein, pour une vieille.
And it's not narcissistic.
Mais c'est pas du narcissisme ni de la fierté. M'habiller le matin, c'est ma séance de méditation. Ça veut dire, voilà qui je suis. Je fais partie de ce monde. Je suis heureuse d'être là, heureuse d'être en vie. Je suis un être humain à part entière, quel que soit mon âge.
Plein de gens,
dès que leur peau se flétrit un peu ou que leurs cheveux ternissent, ils acceptent de se laisser faner, de se mettre en retrait, de devenir invisibles. Moi, je pense que bien s'habiller, c'est se respecter. Et puis chaque jour, on doit bien enfiler des habits, de toute façon. Bien s'habiller, ça porte, ça donne de l'élan, de la vitalité. C'est vraiment une histoire de vitalité. Le style, c'est thérapeutique. Avec du style, on est alerte, vivant, curieux, intéressant. J'ai lavé mes cheveux ce matin, spécialement pour vous, pour qu'ils soient beaux et dufteux.
Votre chevelure blanche est remontée sur elle-même, attachée par plein de petites barrettes.
I get complimented on that.
Oui, je reçois beaucoup de compliments. Super, vos cheveux blancs. Il y a tellement de jeunes gens qui veulent des cheveux blancs ou gris aujourd'hui. Il est décolore, pas en blond platine comme Marilyn Monroe, non, en blanc ou gris. Maintenant, on voit souvent des femmes comme les actrices Helen Mirren ou Judi Dench en couverture de magazines de mode. Être vieux, c'est branché. Enfin, les femmes âgées suscitent l'admiration. Elles sont vues pour leur vraie valeur. Et à mes yeux, ça a commencé il y a 9 ans avec Advanced Style, quand Ari Seth Cohen s'est mis à nous photographier. Ça a réveillé les gens.
Et donc la spécialité de ce photographe Ari Seth Cohen et de ce blog qui s'appelle Advanced Style, ce sont des vieilles personnes très stylées.
Yes. Oui. But street style, so there's all kind of could be.
Mais des photos prises dans la rue, ça peut être une mamie sublime qui tire son caddie de supermarché avec classe, ou une dame en tenue couture vintage avec gants et chapeau. Ce qui compte, c'est l'attitude.
Là, on regarde le blog Advanced Style.
And I'm presenting. Ah, there's Ilona.
Ah, voilà Ilona. Ah oui, la photo a été prise il y a 15 jours. Elle, c'est Ilona Royce Sminskin. Elle a 97 ans.
And everybody knows Ilona.
Tout le monde connaît Ilona. C'est une icône. Enfin, regarde-la, elle est tellement élégante.
Parce qu'elle porte un pantalon noir à gros pois blancs.
Yeah. A very nice puffy jacket on.
Avec une superbe doudoune noire à manches bleu vif.
Et ses cheveux roux flamboyants.
Yeah.
Oui, et elle fabrique elle-même ses faux cils à partir de mèches de ses cheveux roux. C'est vraiment son signe distinctif. Et elle marche dans la rue en battant des cils.
On sent qu'elle a confiance.
She knows she looks good.
Ouais, elle sait qu'elle a une superbe allure. Les couleurs sont fabuleuses, elle se tient bien droite, très fière. Vous savez, il n'y a pas longtemps, elle dansait, elle faisait le grand écart. Même après son opération de la hanche, elle pouvait monter sa jambe très haut. Je pense que Ari, en créant ce blog, a validé le fait de vieillir. Il nous a autorisé et encouragé à nous mettre en avant et à être visible. L'expression convenable passé un certain âge, ça ne veut rien dire. Je m'en fiche si c'est une mini-jupe ou un chemisier transparent. En tout cas, ce que je vois dans les commentaires sur Facebook, sur Instagram, c'est que les vieux sont plus audacieux et ont envie d'expérimenter.
Est-ce qu'il y a plus de liberté dans le fait d'être vieux ?
Well, if I can say it on tape.
Excusez-moi d'être familière, mais quand on est vieux, on s'en fout. On n'a pas peur d'être jugé, on n'attend rien, ni personne. On peut être nous-mêmes.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On est en direct chez 7 milliards de voisins. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous avez entendu ce reportage à New York. La tendance vieille dame a démarré sur les blogs, mais pour les marques, pour la presse féminine, pour les sujets plus classiques, où est-ce qu'on en est, Marie-Jeanne ?
Alors, ça reste encore difficile. Alors, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes africaines, mais de très jeunes, hein, qui, par exemple, se font des tresses avec les cheveux, avec des mèches grises, pour avoir cette espèce de contraste, un visage très, très jeune et des cheveux, bon, qui donnent un certain âge. Et ça, c'est très joli. Sinon, pour nous, c'est plus difficile parce que, malheureusement, sur le continent africain, les gens restent assez classiques, hein. Ils veulent bien une femme ronde, monde, ils veulent bien le désir. Il faut que la cover soit attractive. Ouais. Donc l'image du désir, quand on arrive à imposer une femme très noire, c'est une réussite parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas ça et beaucoup de femmes non plus. Elles préfèrent quelque chose de plus ou moins métissé. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, mais on travaille dessus.
Vous avez vu dans le Figaro, madame, il y a quelques semaines, cette série Haute Joaillerie avec des femmes de largement plus de 70 ans. Il y avait donc des bagues hors de prix qui étaient montrées sur des mains très ridées, aux veines saillantes, vraiment des mains de vieilles dames.
Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la tendance Miami, hein, parce que vous savez qu'aux États-Unis, à Miami, c'est ce qu'on appelle le Holden Ghetto, c'est-à-dire le ghetto des vieux, où on se permet un petit peu tout au niveau vestimentaire.
Des vieux riches.
Voilà. Donc, on se permet tout au niveau vestimentaire, au niveau du style des cheveux. Donc là, c'est un style
pour rappeler quand même, la Floride, c'est vraiment l'état des retraités aux États-Unis.
Voilà,
hein, parce
des retraités qui ont
sa douceur de vivre, voilà.
Voilà, des retirés qui ont de l'argent. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, au Bon Marché à Paris, il y avait une très belle exposition d'une femme qui a 89 ans, qui s'appelle Iris Van Herpel, qui fait des bijoux absolument extraordinaires. Et je crois que c'était la seule fois, en fait, depuis 150 ans qu'existe cette maison, cette institution, qu'une personne de cet âge était célébrée ainsi. Donc, ça ne veut pas dire que, il y a une appétence pour les femmes âgées, mais c'est un marché.
Ouais.
Et c'est un marché qui est intéressant au niveau de la cosmétique, qui est intéressant au niveau du visuel. Et malheureusement, il faut voir aussi qu'en France, ça reste quand même assez rigoureux.
Confidentiel.
La mode.
Merci. Voilà. Je voudrais qu'on donne la parole à Karima Peroni sur ce sujet-là.
Oui, en fait, ce que je disais, c'est que j'aimerais aussi qu'on retienne le positif de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, vraiment, des mannequins de plus de 70 ans, c'était complètement inenvisageable. Aujourd'hui, L'Oréal, qui est quand même la plus grande marque au monde et qui représente toute la femme dans sa diversité. On a des très très jeunes, des moins jeunes, des noirs, des arabes, des métisses, des chinoises, des asiatiques, il y a de toutes les couleurs. Il faut quand même s'imaginer que d'ici encore, le chemin va être long, mais ça
reste
positif.
Alors vous faites allusion à Jane Fonda, mais enfin Jane Fonda, c'est vrai qu'elle est vraiment pas jeune, mais elle est très retouchée sur les photos et la campagne L'Oréal. Médina Koné.
Oui, moi j'ai rédigé un article justement sur le retour, c'est la revanche des blindes, j'ai appelé ça dans FDF Magazine. C'est en fait le retour des... Enfin, c'est pas le retour, c'est en fait la mise en avant des femmes qui ont des cheveux blancs. Iris Apfel, je suis complètement femme d'elle. Il y a aussi Lynn Slater. En gros, on voit de plus en plus de mannequins femmes et hommes
aux cheveux blancs. Et des femmes qui parlent du phénomène elles-mêmes et qui expliquent pourquoi elles ont voulu garder leurs cheveux blancs. Merci à vous toutes, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
C'est frustrant.
Oui, mais l'émission est trop...
Vive les femmes, vive, soyons heureuses.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je voudrais quand même signaler que dans le numéro de Brune, il y a un article sur la mode locavore, sur les hommes africains. Sont-ils devenus radins? Il paraît qu'ils payent plus dans les rendez-vous amoureux, dans les restaurants, et que
même
ça vexe.
Les taxis, ils payent plus.
Ah là là. Franchement, plus de galanterie. Karima Peroni, journaliste au magazine Gazelle, le hors-série mariage, évidemment.
Qui vient de sortir 400 pages.
Médina Koné pour le magazine FDF Femme Diva Fabulous sur Internet. Et puis la version papier, bilingue, français, anglais. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. On se retrouve demain, 7 milliards de voisins. Les architectes peuvent-ils redessiner les villes africaines? Comment se protéger des inondations, des ouragans, du chaud, du froid? Comment construire des villes conviviales, vertes, sans qu'elles ne soient saturées? Toutes ces questions ont-elles changé le métier des architectes? Quelles solutions pour les villes du Sud, dessinées davantage par la croissance urbaine que par de véritables plans d'aménagement? Ne manquez pas l'émission demain.